France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On connaît Patrice Bollon pour ses articles dans nombre de journaux français. Mais on oublie trop souvent qu'il a écrit des livres. On lui doit pourtant, entre autres, un bel essai sur Cioran qui mérite vraiment d'être aujourd'hui redécouvert. Il avait été invité par Alain Weinstein en juillet 2002 pour parler sur notre antenne de son livre « Esprit d'époque » qu'il venait de publier au Seuil. Grand portraitiste, Patrice Bollon croque ici nos manières d'être et nos modernes mythologies, car si nous fabriquons notre temps comme il nous fabrique, qu'avons-nous de commun et de différent? Ne serions-nous pas conformistes là où on s'imagine l'être le moins? Et que faire avec notre singularité? Comment tracer, malgré tout, notre propre voie?
Du jour au lendemain, avec Patrice Bollon. Patrice Bollon publie « Esprit d'époque » aux éditions du Seuil. Comme beaucoup, nous nous sommes longtemps cru un individu original, né original même, ce que semblaient confirmer les nombreuses attitudes et apparences successives que nous avons endossées, étant sûrs qu'elles émanaient des désirs profonds et spontanés de notre incomparable et inimitable personnalité. Tout cela pour nous apercevoir après coup que nous n'avions fait en réalité que suivre à la lettre le chemin imaginaire particulièrement tourmenté de notre génération, y compris dans ce que nous avions vécu sur le moment comme une marginalité d'une audace presque insoupenable. Nous n'avions chaque fois jamais été rien d'autre qu'un symptôme, et sans doute, du fait de sa très grande instabilité, de sa volatilité, un des plus fidèles qui se puisse être de l'esprit changeant de notre temps. Vous avez été longtemps journaliste, Patrice Bollon, spécialisé dans la critique musicale, les portraits et les articles dits de tendance. Oui. Vous avez collaboré presque à tous les journaux, Libération, Le Monde, Paris Match, City, Globe, et à d'autres magazines encore que j'ai oublié de citer. Et vous avez dirigé la section culture de Globe Hebdo. Et à côté de ça, vous avez écrit quelques livres, notamment un essai sur le dandysme, Morale du masque, qui a été publié au Seuil il y a une dizaine d'années, Précis d'extravagance, avec des illustrations de Stefano Canulli, aux éditions du Regard, en 95. Et puis, chez Gallimard, en 97, vous avez publié un Cioran, l'hérétique.
C'est ça.
Ce qui est peut-être ces trois titres-là, d'ailleurs, Précis d'extravagance, renvoyant à sa manière à Cioran, une manière d'annoncer la couleur de ce nouveau livre Esprit d'époque, puisqu'il paraît dans une collection intitulée La couleur des idées, aux éditions du Seuil.
Oui.
Alors, Esprit d'époque a un sous-titre assez long, que je n'ai pas cité. Essai sur l'âme contemporaine et le conformisme naturel de nos sociétés. Mmh. Et le mot naturel dans ce sous-titre a certainement son importance.
Oui, tout à fait. Naturel, c'est parce que, j'ai voulu, dès le départ, comme je l'ai dit dans l'introduction, me séparer de toutes les théories que j'appelle les théories du complot contre l'individu. On peut dire que si les gens qui ont expliqué jusqu'à présent le conformisme, c'était toujours, il y avait toujours un responsable. C'est-à-dire, c'est soit la classe dominante, soit la société dans son ensemble, soit la société du spectacle, soit ceci, soit cela. Et disons que si j'ai mis l'adjectif naturel, c'est au sens que, pour moi, le conformisme est quelque chose de tout temps. Il est sûr que peut-être aujourd'hui, il est plus aggravé pour des raisons, effectivement, de médiatisation. Mais disons que j'ai voulu d'emblée dire que c'est un essai qui porte sur ce qu'on appelle traditionnellement l'esprit du temps, le Zeitgeist, mais de façon un peu plus précise et enfin plus de façon moins théorique par des analyses.
Vous notez d'ailleurs que ce terme esprit du temps apparaît un peu suranné aujourd'hui, fait un peu 19e siècle, on n'emploie plus beaucoup.
Oui, c'est des gens il me semble, parce que pour moi c'est un mot et une notion très importante et qui reste totalement actuelle. Moi, quand je le disais, c'est parce qu'il me semblait qu'il y a des notions comme ça qui sont plus ou moins à la mode et puis qui reviennent. Enfin, tous les concepts ont une histoire et souvent, ils passent un peu, puis après ils reviennent. Et donc, pour moi, esprit du temps est un terme extrêmement clair, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Esprit du temps, c'est pas l'air du temps.
Non, alors il est vrai que il y a même plusieurs pages sur cette différence que je fais parce que je dirais que en France d'ailleurs on emploie très peu l'expression esprit du temps, on emploie celle d'air du temps. Mais je crois qu'il y a une grande différence entre les deux, c'est que l'esprit du temps est beaucoup plus profond. L'air du temps, au fond, c'est ce qu'on appelle la mode. Hein. Et donc le livre « Esprit d'époque » n'est pas un livre sur la mode, c'est un livre sur quelque chose de beaucoup plus profond. Je dirais que c'est plus un livre sur la vie imaginaire sous-jacente des sociétés. C'est-à-dire que je termine un des chapitres même en disant qu'au fond, il y a deux histoires. Il y a l'histoire qu'on nous raconte, une histoire avec un grand H, avec des grands personnages, des grands événements. Et puis il y a une histoire plus compliquée, plus lente peut-être, en même temps une histoire fantasmatique, une histoire en dessous cette histoire officielle, et qui est une histoire, à mon avis, sans doute beaucoup plus importante. D'ailleurs, je suis pas le seul à dire cela. Hein. Il n'y a pas grand-chose dans ce que je dis dans mon livre, finalement, de très original, si on regarde bien les grands auteurs. Je relisais récemment Tel quel de Valéry. C'est la même idée qu'il exprime assez souvent, d'ailleurs. Donc, mais quand j'ai fait le livre, je n'avais pas relu, je ne me souvenais plus de cela. Hein.
Mmh. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Patrice Bollon, il y a un point sur lequel vous êtes particulièrement offensif dès l'introduction de votre livre, c'est dans la récusation de toutes ces explications en termes de complot qui, aujourd'hui, rendent compte des phénomènes qu'on connaît, aussi bien d'uniformité, de conformisme par l'imitation, que de médiatisation. Ouais. Qui est tout à fait au goût du jour, oui, ou encore de pensée unique. Pour vous, ça n'a pas de sens.
Ça n'en a très peu. Et je dirais même que la théorie du complot, aujourd'hui, elle est même dominante. Hein. Je pense au succès phénoménal de ce livre sur l'effroyable imposture. C'est-à-dire, je crois que... et ça, c'est des fausses explications. Enfin, je me demande même comment les gens peuvent s'y référer. Bon, alors, qu'il y ait des manipulations, bien évidemment, il y en a toujours eu, et peut-être qu'effectivement, la médiatisation accroît tout ça. Mais en même temps, Je ne crois pas que la médiatisation crée véritablement des événements par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils les poussent, ça c'est une évidence, je ne sais pas comment on peut dire autrement, mais ce n'est pas l'explication ultime en fait. Et il est vrai qu'on a pu dire à propos de ce livre-là, oui, que je me réfère aux autres puisque je suis mal placé pour... qu'en fait... Il y a un article qui a même pu dire qu'en fait, je me désolidarisais même de, une des grandes pensées dominantes aujourd'hui, c'est quand même le situationnisme. Et il est vrai que c'est pour moi la faiblesse du situationnisme que d'être encore une théorie du complot. Et je pense que le complot, donc il y a des manipulations, ça c'est sûr, mais je pense que la conformité que nous avons tous, en fait, est une conformité un peu naturelle, c'est-à-dire qui émane de choses sur lesquelles on n'a pas forcément immédiatement de prise. Mmh. Donc ça demande pour s'en séparer, enfin pour s'en libérer pour une part. Encore la question, on se pose aussi de savoir s'il faut s'en libérer, mais ça demande un véritable travail intellectuel.
Donc aucun complot ne peut chasser le naturel, parce qu'il reviendrait au galop.
Non, mais cela dit, ça veut dire aussi que prendre du champ par rapport à son époque, c'est possible aussi, bien sûr. C'est pas le livre que j'ai écrit, c'est pas un livre pour dire que nous sommes tous ad vitam aeternam et sans possibilité de s'en libérer des clones. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que la pente naturelle nous amène quand même à adopter le goût dominant de notre époque. La pente naturelle nous amène à avoir le visage que veut notre époque, etc., etc. Puisque ça, c'est un peu les thèmes que j'ai examinés. La pente naturelle, c'est que il y a par époque une sorte de conception de l'espace dont il est très difficile de s'extraire, etc., etc. Il y a un vocabulaire qui nous pousse à certaines pensées. Et dans les pensées, il est sûr qu'il y a des problématiques d'époque dont il est très difficile de s'extraire et dont, effectivement, je pense que la grande philosophie s'en extrait. Mmh. Voilà.
Donc, dans ce livre, Esprit d'époque, Patrice Bollon, vous étudiez la conformité comme un postulat fondamental de la vie en société et non pas comme une conséquence malencontreuse.
Oui, et en ce sens-là, on peut même... La phrase que vous venez de citer, enfin, je l'ai à peu près écrite dans mon livre, et je fais référence à un auteur qu'on lit plus tellement, et qui pour moi est un des plus grands du XXe siècle, c'est Norbert Elias. Et c'est pas du tout, en fait, il est vrai que la conception de penser que d'opposer d'un côté la société comme une sorte de grand Moloch comme ça qui nous opprime et l'individu qui combat contre pour sa personnalité, c'est une conception naïve, parce qu'en fait depuis et c'est ce que disait Elias dans un très beau livre qui s'appelle La société des individus, et je ne fais que m'inscrire au fond dans cette réflexion critique.
Alors, dans ce livre, vous passez en revue quelques manifestations concrètes de l'esprit du temps dans plusieurs domaines. Les parfums,
oui.
La cuisine, le design, le langage, etc. Vous êtes attaché aux objets banals dans lesquels une époque se révèle bien, plutôt qu'aux créations esthétiques.
Voilà, oui. Disons que le livre aurait pu être fait sur les créations esthétiques dites nobles. Mais encore, je dis dites nobles parce que la différence entre les deux est parfois, pourrait se discuter assez longuement. Hein. Et donc j'ai préféré passer par l'analyse de manifestations qu'on considère en général un peu plus faibles d'une superficielle. Sauf que là, le dernier chapitre porte sur les idées, où là, je reviens un peu à des choses plus solides. Mais les choses, il m'a semblé qu'effectivement, s'attacher à analyser la banalité d'une époque était peut-être la meilleure façon de comprendre justement qu'est-ce qui réunissait et qu'est-ce qui faisait vivre cette époque. Alors dans ce que vous avez dit, il y a aussi un premier chapitre qui porte sur les visages.
Oui.
Issa est
corps
un peu...
et les visages.
Oui.
Alors, il y a aussi les raisons profondes pour lesquelles vous avez eu envie d'écrire cet essai, et ça nous ramène à la phrase que j'ai lue en ouverture de l'émission, c'est-à-dire que, comme beaucoup, c'est ce que vous dites là, dans cette phrase, vous êtes longtemps cru un individu original, né original, bah, même.
Oui.
Et en fait, c'était pas tout à fait ça.
Non, c'était pas tout à fait ça, mais je crois que là, mieux vaut tard que jamais, hein, d'être, disons que là, j'ai effectivement dans l'introduction, oui, à la fin, comme le travail du livre, enfin, ce que je me propose de faire dans le livre, c'est de mettre à jour les présupposés sous-jacents des époques, bah, il était naturel que je le fasse pour moi aussi. Mmh. Donc, c'est dans ce cadre-là que, effectivement, j'ai pu dire que ce livre-là n'est pas un livre extérieur à moi, c'est un livre, au contraire, c'est quasiment une sorte de cure thérapeutique pour moi, parce que il est certain que j'appartiens à une génération, bon, celle des années 70 et plus tard, qui était la génération qui a sans cesse pris et rejeté des looks, qui tous les ans apparaissaient différemment, avec des goûts différents, etc. C'est-à-dire que j'ai été ce qu'on appelle un marginal branché, hein. Et en faisant un pas de côté, mais assez vite d'ailleurs, quand je dis, il y a au moins une dizaine d'années que je me suis rendu compte que tout ce jeu-là était jeu que je ne refuse pas d'ailleurs, je l'accepte complètement, mais il est certain que j'ai eu tendance, comme beaucoup d'autres, à me croire infiniment plus original que je ne l'étais, puisqu'au fond, je n'ai fait que suivre l'esprit de ma société.
Mmh. Donc ce livre propose non pas un travail de deuil, mais un travail de désillusion.
Oui, c'est un travail de désillusion. Oui, c'est d'ailleurs le dernier mot du livre est le mot de philosophie. Et il est vrai que c'est ça que j'ai voulu faire, c'est-à-dire au sens, quand je dis philosophie, il faut que j'explique de quoi je parle, parce que c'est-à-dire que le livre, en fait, il y a un soubassement théorique qui est assez repérable, j'imagine, puisque je suis un grand lecteur de Wittgenstein mais de bien d'autres, hein.
Vous avez
parlé de Nietzsche, de Suran, etc., oui. Et effectivement, ça, c'est la grande tradition de la philosophie comme travail sur soi, c'est-à-dire comme tentative d'arriver à une conception propre, plus propre en tout cas que celle de commune, des choses, mais avec des questions de savoir à quoi ça sert aussi d'avoir une conception propre. Je veux dire, je n'écarte pas cette question-là, au contraire, même à un moment je la traite, mais de façon assez rapide, puisque j'ai privilégié l'analyse de la banalité, l'analyse description, c'est ce qui explique le long sous-titre dont vous avez parlé tout à l'heure, puisqu'il y a aussi un projet aussi d'analyser le temps actuel. Mmh. C'est le côté âme contemporaine.
Ouais. Alors donc, vous faites allusion à cette dernière page de votre livre, où il est question de la philosophie. Philosophie, mot devenu si flou, écrivez-vous, si incertain aujourd'hui, et si mou même.
Oui, bah je dis souvent quand on me, je dis je signe à quatre mains. Bon, j'ai pas quatre mains, mais je signe à quatre mains ce que je viens de dire. Oui, c'est-à-dire que là, tout dépend de la façon dont on définit l'activité de penser et la philosophie. Disons que moi, je la définis au sens d'ailleurs très grec du terme, hein, qui a été fait qu'être illustré par Wittgenstein, Nietzsche et d'autres, c'est-à-dire la philosophie justement comme un travail de désillusion par rapport aux choses qu'on porte et qu'on ramène de l'espace extérieur. C'est un travail c'est arriver à s'émanciper de certaines normes et à les comprendre. C'est-à-dire que, en fait, d'ailleurs, c'est pas très, très éloigné. J'ai lu bien après, il y a pas longtemps que j'ai lu le dernier livre de Bourdieu qui s'appelle Méditation pascalienne. Et sur, je dirais, les deux tiers du livre, je suis assez d'accord. C'est-à-dire, en fait, pour moi, la philosophie, c'est toujours la philosophie de la philosophie. C'est-à-dire l'analyse de tous les présupposés latents qui nous poussent à dire des choses, mais qui ne sont pas forcément vraies ou qui sont pas forcément bien formées. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, le travail de la philosophie, c'est un travail de désillusion et de compréhension de la raison pour laquelle on agit ou on dit une certaine chose.
Parmi tous les thèmes que vous abordez dans Esprit d'époque, Patrice Bollon, l'essai que vous publiez aux éditions du Seuil, il y a en effet les corps et les visages, et vous examinez, comme le notait déjà non pas un philosophe, mais un célèbre écrivain, Oscar Wilde, comment chaque époque sculpte nos corps et modèle nos visages.
Mmh. Oui, en fait... Je pars du fameux paradoxe de Wilde, qui, selon lequel ce n'est pas l'art qui imite la vie, c'est la vie qui imite l'art. Alors c'est un paradoxe, la première fois qu'on rencontre ce paradoxe, on se dit, Oscar Wilde fait à nouveau son intéressant ou son dandy, mais c'est pas du tout ça, en fait. Si on regarde bien les choses, parce que Wilde allait jusqu'à dire que c'était les impressionnistes qui avaient créé le brouillard. Il allait jusque là, c'est-à-dire que c'est dans le déclin du mensonge qui est d'ailleurs c'est plus, je pense qu'Oscar Wilde peut être classé comme un penseur aussi, hein, quand même. Et Oscar Wilde disait que il remarquait que dans la société à l'époque où il vivait, la publication de la Comédie humaine de Balzac avait donné naissance dans les rues à des types humains. Des physionomies qui n'existaient pas auparavant. Donc c'était l'art qui créait la réalité. Et donc je suis parti de ce paradoxe pour après examiner ce qu'on appelle la mode, mais d'une façon un peu de biais, et en remarquant comment à chaque époque sculpte nos corps et nos visages.
Mmh. Donc notre apparence physique, c'est une page blanche à partir de laquelle nous créons.
Oui.
Mais nous nous créons en fonction des valeurs plus ou moins déterminées par celles qui nous entourent.
Oui, ça me semble... Vous savez, je regarde chaque fois que je sors. Moi, je suis un grand observateur. J'adore regarder toutes les affiches et puis les visages dans la rue. Et les visages, sont infinis. Enfin, la variation est infinie. Mais on voit. Il y a certaines périodes, on voit arriver certains types de physionomie, certains types de mise en valeur. Par exemple, aujourd'hui, la petite barbe mal rasée, le crâne assez rasé. Moi, j'ai un fils qui n'est pas du tout un fan de Zidane et il a exactement la même coupe que Zidane. Il a la même. C'est pas un fan de Zidane. Hein. C'est-à-dire, pourquoi il est comme ça? Bon, il aurait eu 25 ans il y a 15 ans, il aurait arboré peut-être des cheveux longs, la barbe et tout ça. Enfin, c'est ça que je veux dire. Hein. Mmh. Et alors, il est vrai que moi, je m'amuse parfois à regarder mes anciennes photos et si je les mets les unes à côté des autres, je pense qu'on pourrait dire, quelqu'un qui connaît très bien la société pourrait dire, bah, ça, c'est telle date, telle... Voilà, mais c'est une constatation assez indubitable, en fait.
Et ça, on peut le vérifier avec les parfums aussi?
Alors oui, les parfums, c'est-à-dire que à propos des parfums, j'ai voulu faire le chapitre sur les parfums est un peu différent de celui sur les visages, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est tenter de raconter l'histoire souterraine dont je parlais tout à l'heure de la société, c'est-à-dire cette histoire fantasmatique, par l'intermédiaire de l'étude de ces reflets parfaits, dans une certaine façon, que sont les parfums. Alors ça m'a beaucoup amusé parce que d'abord c'est un domaine qui il y a une dizaine d'années je connaissais assez mal, donc c'était un travail qui qui m'a beaucoup apporté, et donc j'ai essayé de raconter au fond faire l'histoire fantasmatique du XXe siècle, mais très rapidement bien sûr puisque ça ne fait que 30 pages, hein, à travers l'histoire des parfums.
Et notamment le numéro 5.
Voilà, numéro 5, mais tous les autres. Oui.
Le pouvoir d'un parfum entraîne un processus complexe, plutôt énigmatique.
Ah, c'est très énigmatique. C'est même, je me réfère souvent à un des plus grands parfumeurs du XXe siècle français qui s'appelait Edmond Roudnitska, qui est quelqu'un d'ailleurs qui avait une véritable culture et une véritable pensée. Hein. C'était un être assez extraordinaire qui est mort, je crois, il y a 5 ou 6 ans. Et lui, il disait ça, c'est-à-dire il disait que les parfums, ben, c'est des formations fantasmatiques. Et c'est pour ça que les parfums on peut si bien lire l'évolution de la société à l'intérieur des parfums. Mais ça demande effectivement une certaine culture de ce qu'est la senteur et même des notions de physiologie.
Mmh. Oui. Il y a les senteurs et il y a les saveurs. Et alors, oui. Il y a tout un chapitre du livre sur la cuisine. où vous vous intéressez notamment à ce qui se cache derrière ce terme en apparence si simple, mais en fait opaque, insaisissable, le goût. Ce qu'on nous propose aujourd'hui dans les restaurants à la mode, c'est une cuisine cool, décontractée, mais aussi décalée. C'est-à-dire qu'elle a un pied dans la tradition, un autre dans l'exploration de nouveaux goûts modernes, et le tout sur fond de mondialisation culinaire avec une touche de régression infantile.
Ah oui, ça joue. Oui, alors effectivement, ce chapitre sur la cuisine, qui d'ailleurs part de l'époque actuelle et puis après revient au Moyen-Âge. Non, ce que j'ai voulu faire là-dedans,
c'est que... Vous êtes parti du poulet au Coca-Cola.
Voilà. Oui. Un
plaisir pour les bobos.
Voilà, c'est ça, oui. Et alors, en fait, non, ce que j'ai voulu faire à travers la cuisine, c'était d'essayer de m'interroger, oui, sur ce que signifiait ce mot si simple et en fait si complexe qu'est le mot de goût. Et ce qu'il m'a semblé, en analysant, donc en faisant une sorte de va-et-vient constant entre les époques, entre aujourd'hui et le Moyen-Âge, c'est que le goût, c'est un système. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est au fond la partie immergée de toute cette histoire souterraine dont je parlais. Et c'est pour ça qu'au fond, je peux affirmer à la fin de ce chapitre que, contrairement à ce que disent certains, il y a un seul goût par époque. Et alors, toutes les variations de goût personnel ne sont que des micro-variations par rapport à cette tonalité d'époque, mais ce qui est la même chose dans les parfums, puisque à la fin du chapitre sur les parfums, je cite même Colette, qui dit que ce que ont les parfums, c'est qu'ils représentent la tonalité mélodique, la tonalité musicale de l'époque. Et c'est un peu la même chose en ce qui concerne le goût, c'est-à-dire que si on analyse bien ce qui se passe en matière de cuisine, et puis après je passe un peu au goût pictural, c'est de montrer qu'au fond, on a notre goût que l'on pense si naturel, si direct, si personnel. Au fond, c'est toujours le goût des autres. On a tous le même goût. Et alors après, il y a des micro-variations par rapport à ça, dans lequel il intervient une toute petite originalité. Mais c'est souvent d'ailleurs des originalités partagées avec d'autres.
Donc en réalité, le goût des autres, c'est le goût de tout le monde.
Oui, il y a le goût dominant, il y a un goût par époque. Ça me semble, c'est ce que j'ai cru comprendre en analysant à la fois la cuisine et aussi le goût pictural un peu.
Ouais. En tout cas, la cuisine, les saveurs, et y compris le vin. D'ailleurs, vous faites remarquer que c'est très récent. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que on recherche des accords entre les vins et les mets.
Oui, tout à fait. Et disons, je reviens à cette idée que je disais brièvement tout à l'heure. Effectivement, le goût, c'est un système de goût. C'est-à-dire que chaque goût par époque, à chaque époque, a son système cohérent. Et c'est là où on peut dire que ce système-là, c'est très difficile de s'en extraire. Donc, on ne s'en extrait que très marginalement, parce qu'en réalité, c'est pour ça que je reviens un moment au Moyen-Âge pour montrer à quel point il est difficile de comprendre ce qu'a pu être la cuisine du Moyen-Âge pour les gens du Moyen-Âge, puisqu'il y a tout un ensemble qui nous est devenu totalement étranger.
Alors, il y a un développement sur les objets, les formes, les styles, et un autre sur la décoration intérieure. Oui. Vous avez feuilleté toutes les revues de décoration d'aujourd'hui, et vous en avez tiré la conclusion qu'il est difficile d'y repérer l'impulsion unitaire, la forme standard, l'inspiration commune.
Mais à propos des espaces, ce qu'il m'a semblé, c'est que... On est actuellement, si on parle de décoration intérieure, dans une période d'éclectisme, c'est-à-dire qu'on mélange un peu tout. Mais en fait, si on regarde bien, on se rend compte que la base des décors intérieurs est exactement la même et qu'elle a très peu changé depuis les grandes années du moderne. Et c'est cette démonstration que je fais dans ce chapitre-là pour essayer de comprendre qu'en fait, ce qui nous domine, c'est quelque chose que nous ne pouvons que très difficilement analyser. C'est cette idée que chaque époque a une certaine notion de l'encombrement. il y a une certaine notion de ce qu'est l'espace. Et ça, je suis vraiment pas le premier à l'avoir dit, puisqu'au fond, c'est sur cette notion-là que reposent aussi bien, enfin, les grandes analyses de Panofsky et de bien d'autres. Et il y a effectivement que et Franck Castel, qu'on lit plus beaucoup et qui est un très grand de la philosophie de l'art. Et donc, c'était de dire qu'au fond, il se passe dans le domaine des décors. On a l'impression aujourd'hui que c'est une époque très éclatée. Mais en réalité, si on regarde bien, c'est une époque très unitaire, comme toutes les époques, et qui a un style très très net, mais à partir duquel il y a des micro-variations personnelles. C'est ça le sens d'ensemble de la démonstration sur ce chapitre.
Le langage est évidemment en première ligne pour analyser l'esprit d'époque, parce que l'époque parle à travers nous.
Plus que ça, même toute notre activité de pensée est portée et engluée dans le langage. Enfin, le langage, c'est la frontière ultime même de pensée. Ce que j'ai tenté de montrer, c'est que tous les scories du discours qu'on reprend, les mots d'époque, en fait, sont des mots extrêmement significatifs et qui nous mènent à affirmer certaines pensées aux dépens d'autres. Et donc, je me suis amusé à analyser des mots qu'on reprend beaucoup aujourd'hui, comme incontournable, comme c'est clair, comme ceci. J'aurais pu rajouter aujourd'hui le mot de posture, mais il n'était pas encore. Mais enfin, c'est très intéressant quand on voit certains mots arriver comme ça. Ce ne sont pas seulement des phénomènes de mode, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu montrer, c'est que chaque temps donne d'abord invente un certain nombre de locutions clichés que nous utilisons tous, parce que ne pas les utiliser, ça demande un effort. Et puis aussi donne une certaine valeur à certains mots, mais associe un certain nombre d'idées à certains mots, et que tout ça fait que le langage que nous utilisons nous amène à dire certaines choses et non pas d'autres.
Lecture faite de tous ces chapitres, Patrice Bollon, alors on se pose la question que vous posez d'ailleurs vous-même à la fin, jusqu'à quel point nos idées nous appartiennent-elles ?
Oui, eh bien, la question, vous savez, toute question porte sa réponse. Alors la réponse, c'est que nos idées ne nous appartiennent pas beaucoup, mais elles nous appartiennent quand même possiblement. Et c'est là qu'est quand même le livre que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai été plutôt rassuré dans les lectures qui ont été faites. Enfin, j'entends les articles de revues ou d'ailleurs, c'est que on ne m'a pas pris pour quelqu'un qui vitupère contre le monde moderne et la décadence du monde moderne. Parce que je ne suis pas ça et je tiens à ne pas être ça. Et donc, le constat que je fais est un constat très dur, mais qui n'est pas une impasse. Parce que il y a toutes ces choses qui nous dominent et nous modèlent. Je dis simplement que nous pouvons, pour autant que ce soit nécessaire, nous en libérer.
Esprit d'époque, le livre de Patrice Bollon est publié aux éditions du Seuil. Du jour au lendemain, Guy Sonneau, Bernard Treton, François Poirier, Alain Winstein. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 juillet 2002.